RFI, grand reportage, Édouard Dupenoit.
Une nouvelle journée d'action, demain, mardi 22 mai, pour les fonctionnaires. Cette fois-ci, elle sera unitaire, puisque les 9 syndicats représentatifs vont défiler, ensemble, contre la réforme de la fonction publique et pour défendre leur pouvoir d'achat. Ils demandent l'abrogation de la journée de carence pour les congés maladie. Ils réclament la fin du gel du point d'indice, qui sert de base de calcul à leur salaire, la compensation de la hausse de la CSG, l'arrêt des suppressions de postes, la contractualisation des agents et la pérennisation de leur système de retraite. Sur tous ces points, ils entendent faire reculer le gouvernement. Malaise dans la fonction publique, un grand reportage de Patricia Lecomte.
Tous ensemble, résistance !
Sur la question du statut de la fonction publique, de la casse des services publics, on est très mobilisés. Ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi la reconnaissance que les services publics sont utiles, utiles pour les citoyens et que c'est notre bien commun.
Pour la troisième fois, les fonctionnaires vont battre le pavé pour défendre l'avenir des services publics. Pierre, qui est pédopsie à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, participera au défilé. Il entend défendre l'hôpital et le soin pour tous. Après avoir exercé plusieurs années en psychiatrie pour adultes, il a fait le choix de se tourner vers la psychiatrie pour enfants. Une unité, selon lui, encore un peu protégée des restrictions budgétaires imposées par les directives gouvernementales. Toutefois, il déplore que les contraintes financières soient devenues une priorité.
Le malaise, c'est la durée moyenne d'hospitalisation. La durée moyenne d'hospitalisation, c'est l'obsession systématique de tous les chefs de service, les cadres sup. Le terme, c'est ventilation patient. Quand je suis tombé sur ce terme, c'est quelque chose qui m'avait moi complètement choqué. L'objectif, c'est que le patient, ce soit une sorte de courant d'air finalement, que sa durée d'hospitalisation soit la plus courte possible pour qu'on puisse attester de l'efficacité du dispositif d'accueil et d'hospitalisation.
Une dégradation de l'outil de travail couplée à une intensification des tâches pour les soignants éloigne le personnel hospitalier du patient.
Il y a des répercussions en ce qui concerne la pédopsie sur l'attente. Ça peut aller de 6 mois à pratiquement un an d'attente pour un premier rendez-vous, ce qui fait qu'on passe systématiquement à côté. Pour le patient, clairement, on est dans la perte de chance par rapport à ses premiers rendez-vous. Pour ce qui est de l'hospitalisation en tant que telle ou des lieux d'accueil comme cela à temps partiel, on est dans une dégradation de la qualité de l'accueil.
À 50 km à l'ouest de Paris, la direction de l'hôpital de Mantes-la-Jolie se heurte aux restrictions budgétaires. Par manque de moyens, l'hôpital s'avère peu attractif et peine à recruter, ce qui génère une surcharge de travail pour les équipes soignantes. Marie-Laurence Beaumarchand, cadre supérieur de santé en consultation externe, le constate au quotidien.
Notre métier, on ne choisit pas par hasard. Et quand on se sent mal par rapport à une prise en charge de patients, on a affaire à beaucoup de souffrance, hein. Je pense que les soignants vivent de plus en plus mal cette lourdeur en fin de compte et elles sont mal à l'aise parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont submergées et qu'elles n'ont pas répondu aux attentes individuelles parce que chaque individu a sa demande et c'est ce qui fait le gros malaise en fin de compte parce qu'elles ont l'impression de ne pas aller jusqu'au bout de leur métier et de ne pas avoir une réelle prise en charge.
Monsieur, je vous pique. On y va ? Allez, je vous pique.
Super, super. Estelle Baudry, infirmière dans l'équipe mobile de gériatrie, confirme son insatisfaction. Pour autant, elle n'adhère pas au grand mouvement de la fonction publique. Pas plus qu'elle ne souscrit à la revendication concernant le jour de carence ou le gel du point d'indice.
Moi, le jour de carence, je pense que c'est très bien parce qu'il y a aussi des gens qui abusent du système. Je pense qu'il faut aussi être lucide par rapport à ce qu'on est, nous. C'est-à-dire que je pense que malheureusement, il y a des gens qui ménagent pas leur peine. Il y a aussi des gens qui abusent du système. Si le privé a un jour de carence, pourquoi est-ce que nous, on en aurait trois ? Je comprends juste pas le raisonnement et je comprends même pas que ça chiffonne. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je peux difficilement m'associer à des mouvements de grève qui militent pour des choses pour lesquelles je n'adhère pas du tout, quoi.
Et le gel du point d'indice ?
Le gel du point d'indice, quoi. Enfin, oui, évidemment, si vous me dites demain, vous gagnez 500 euros de plus, ou je serais ravie, je peux pas vous dire le contraire. Maintenant, si c'est l'effort de guerre à fournir pour que les choses s'améliorent, à la limite, je préfère qu'on gèle mon point d'indice et qu'on rajoute une infirmière dans le service. Ok, pas de problème.
Ok, ça y est, c'est bon. Allez, on vous laisse tranquille, là. C'est bon.
En fin de carrière et en classe exceptionnelle, avec le maximum de la note, elle gagne environ 2600 euros par mois. Malgré toutes les difficultés, Estelle n'ira pas défiler.
Quand il y a des grandes manifestations comme ça, c'est des manifestations aussi un peu fourre-tout, où on évoque tout, où parfois on a des sentiments d'opposition presque systématique plus que productive. Ce que j'aimerais dans la fonction publique, c'est que voilà, on puisse avoir une opposition qui soit productive, quoi, qui soit pas juste, c'est pas bien ce que vous faites, mais qui finalement propose pas forcément autre chose. Mais ça fait partie du maillon de l'opposition, effectivement, d'être gréviste et de manifester. C'est une façon de se faire entendre, c'est certain.
Les agents de la police nationale sont eux aussi en colère. Au commissariat d'une commune de la banlieue nord parisienne, Hervé est responsable d'un service d'investigation. Il déplore une surcharge de travail grandissante.
Dans les commissariats de police notamment, les dossiers s'accumulent de plus en plus. On diversifie énormément nos tâches. On se retrouve effectivement avec beaucoup d'enquêtes sociales qui n'étaient pas effectivement par exemple de notre niveau. Pour d'autres administrations, y compris par exemple même l'administration fiscale. Donc au lieu de faire des enquêtes de police pure, on va se retrouver à également gérer beaucoup d'autres enquêtes qui viennent d'autres administrations et qui viennent empiéter, si vous voulez, sur notre travail de pur policier, si j'ose dire.
La police ne fait plus rêver. Après les attentats du Bataclan, il y avait eu une forte recrudescence des candidatures. Mais aujourd'hui, l'engouement retombe. Même si actuellement la police recrute, les viviers sont en train de s'appauvrir car il y a moins de candidats. Les salaires sont au point mort depuis trop longtemps.
Les grilles n'ont pas été revalorisées depuis un certain temps. On a effectivement un protocole de revalorisation qui a été donc normalement signé l'année dernière, qui aurait dû être effectivement mis en place à compter du 1er janvier 2018 et qui a été suspendu par le gouvernement. On ne sait pas s'il va être mis en application en 2019. Donc non, il y a une certaine inquiétude par rapport à ça. Alors le gel du point d'indice est important. Les gens n'ont pas été revalorisés depuis très très longtemps. Par contre, à l'instar, les hauts fonctionnaires ont été, j'oserais dire, grassement servis. Puisque le corps de conception et direction de la police nationale, donc en l'occurrence les commissaires et hauts fonctionnaires, ont bénéficié de revalorisations substantielles, avec effectivement création de grades supplémentaires les concernant, et également de primes substantielles qui ont attrait notamment effectivement à des primes de résultats exceptionnels, à l'instar malheureusement des corps intermédiaires et des gradés et gardiens de la paix, ce qui est très très mal vécu notamment par les effectifs de terrain.
Si pour le moment les effectifs de la police sont maintenus, les agents s'inquiètent des départs à la retraite des post-baby-boomers d'ici les 5 prochaines années.
Nous allons avoir effectivement des départs à la retraite qui vont être considérables et qui risquent d'être encore plus alourdis avec la réforme des retraites que prépare le gouvernement, puisqu'effectivement le gouvernement souhaite changer la méthode de calcul des pensions. Les pensions sont calculées sur les 6 derniers mois de traitement. Le gouvernement souhaite le calculer à minima sur les 10 dernières années. Si le calcul de ces pensions devient défavorable pour les fonctionnaires, certains qui comptaient peut-être continuer encore un petit peu risquent fort d'anticiper leur départ. Et ça, je ne suis pas forcément persuadé que le gouvernement ait anticipé cette possibilité.
Le mal-être des fonctionnaires de police ne date pas d'hier, mais la situation s'est encore dégradée depuis les attentats où le métier est de plus en plus risqué. Une fatigue que mesure Jean-Louis Van Kalk, président du syndicat Impact Police CFTC.
Si on se réfère au sentiment des collègues actuellement, il y a un très grand désappointement, une très grande colère. Des déceptions, des mécontentements qui remontent très régulièrement et puis qui s'intensifient. Il ne s'agit pas de dire le gouvernement actuel a tous les torts. Hein. La situation de la police se détériore depuis de très très nombreuses années, même si on peut reconnaître qu'il y a des réformes qui peuvent aller dans le bon sens. Mais sur le terrain, les policiers n'ont absolument pas le sentiment d'être écoutés par leur hiérarchie, et quand ils le sont... En tous les cas, ils ont l'impression que les informations ne remontent pas clairement jusqu'au ministère. Donc ce sentiment d'être la dernière roue du carrosse et d'être uniquement un pion à la disposition du politique s'intensifie depuis de très nombreuses années.
Le malaise dans la fonction publique existe depuis plusieurs années. Alors pourquoi les 5 044 000 fonctionnaires sont-ils particulièrement remontés cette fois-ci ? En cause, la réforme de la fonction publique annoncée par le candidat Macron est discutée actuellement. Pour Jean-Marc Canon, en charge de la fonction publique à la CGT, ce gouvernement qui prône l'agilité est particulièrement rigide. Il regrette le manque de dialogue social.
Nous, on est favorable, y compris à des réformes. Mais là, dans le cas d'espèce, sur tout un ensemble de sujets, les non-titulaires, le dialogue social, le système de rémunération, etc., on nous vend une espèce de souplesse indispensable, sans jamais étayer le moins du monde ce vers quoi on va. Rien n'est dit, et on est face à des présupposés, des a priori, qui en fait, derrière, de nos points de vue, cachent une véritable organisation de démantèlement du statut de la fonction publique. Voilà. C'est de ça, nous, qui nous pose problème. Et encore une fois, moi, j'observe que sur les dizaines de propositions que nous avons faites, soit en politique générale, soit sur des catégories particulières, aucune, je dis bien aucune, n'a été prise en compte. C'est une conception particulière du dialogue social, du respect des organisations syndicales et du fait de discuter des propositions que nous pouvons faire aussi. Il n'y a pas de dialogue du tout. Je n'ai jamais vu personnellement un gouvernement aussi sourd à ce que disent les organisations sociales représentatives. Voilà.
À l'Éducation nationale, le mécontentement est le même. Éric est professeur des écoles. Depuis 17 ans, il enseigne en école élémentaire à Paris. Il travaille en zone d'éducation prioritaire et gagne 2200 euros net par mois. Tous les 4 ans, il est augmenté de 90 euros mensuels. Il a choisi la fonction publique par conviction et craint sa disparition avec la fin du statut de fonctionnaire.
Le statut de fonctionnaire, c'est la garantie d'avoir une personne qui est formée. C'est la garantie d'avoir une personne qui représente les valeurs de la République. Et c'est la garantie d'avoir surtout un service public de qualité. J'ai peur, en ce qui me concerne, de la contractualisation grandissante d'un certain nombre de publics qui viendraient enseigner dans les écoles sans avoir la formation. Plutôt que d'avoir cela, je pense qu'il serait préférable d'avoir une vraie formation, d'avoir un métier d'enseignant avec plus de reconnaissance, avec plus de moyens, avec moins d'élèves également. Je pense qu'il serait préférable d'augmenter le nombre de postes au concours chaque année.
Sophie enseigne depuis plus de 30 ans. Les dysfonctionnements de l'éducation nationale, elle fait avec. Sa difficulté est ailleurs.
Il y a quand même un problème très particulier auquel moi je suis confrontée depuis très longtemps. C'est le problème de l'évaluation des personnels. En fait, il est difficile dans nos métiers de récompenser, j'allais dire de façon juste, les bons. Il est difficile de les promouvoir, il est difficile aussi parfois d'accélérer leur carrière. Alors pourquoi ? Parce que la progression de la carrière dans cette institution n'a qu'un rapport lointain parfois avec les qualités professionnelles. Il y a d'autres paramètres qui sont pris en compte, il y a l'âge, il y a l'ancienneté, il y a des quotas aussi d'appréciation qui sont donnés par les supérieurs hiérarchiques, et puis il y a aussi la situation familiale. Et tout ça fait que finalement les compétences, la performance, les résultats, la motivation sont finalement des critères de promotion moins importants et parfois même tout à fait accessoires. Beaucoup de gens se sont élevés contre la rémunération au mérite. Moi, personnellement, je pense que c'est une erreur. Il faut donner aux jeunes la possibilité de progresser. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on est bon, et ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne l'est pas. En fait, il faudrait donner aux gens qui veulent vraiment travailler plus et qui sont particulièrement efficaces et efficients, la possibilité d'avoir une compensation dans leur salaire, dans la carrière, enfin, qu'il y ait quelque chose quand même qui puisse d'une façon ou d'une autre les récompenser. Un secteur d'activité où les bons deviennent peu à peu aigris, c'est vraiment un secteur qui ne marche pas très bien.
Des propos qui ne sont pas portés par les syndicats.
Les syndicats ne sont pas représentatifs de l'ensemble des personnels. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas syndiqués. C'est quelque chose qu'on n'entendait pas il y a 10 ans et qu'on entend de plus en plus.
Éric Gillet est chargé de mission pour la région d'Île-de-France. Il appartient à la fonction publique territoriale qui recense près de 2 millions d'agents. Ces derniers travaillent pour les communes, les départements et les régions. Parmi eux se trouvent les pompiers, les jardiniers, les cantiniers, les bibliothécaires, les documentalistes, pour n'en citer que quelques-uns. La territoriale abrite de nombreux métiers et recourt également à des recrutements extérieurs. Ces salariés ne sont pas des fonctionnaires mais des vacataires, un mélange des genres qui provoque de fortes disparités selon Éric Gillet.
Il y a des gens qui quittent la fonction publique territoriale régionale, d'autres qui sont recrutés en n'ayant absolument pas un statut de fonctionnaire, qui sont recrutés dans le privé, etc. Et pour finir, il y a des postes de gens qui sont rémunérés à hauteur de 15 000 euros par mois. Et il y en a, vous savez, des petits salaires dans la fonction publique territoriale, ça existe. Il y a des gens qui sont à 1200, 1300 nets. Donc je me dis, tiens non, peut-être qu'ils se sont trompés, mais non.
Vous cherchez la Joconde ? Vous devez prendre l'escalier, monter au premier étage, prendre sur votre gauche, vous allez tout au fond, ensuite sur votre droite.
Claire est fonctionnaire, catégorie C, elle est agent d'accueil et de surveillance au Louvre, et le jour de notre rencontre, elle veille sur la Joconde. Dans la fonction publique, le plus grand nombre des agents se situe dans la catégorie C, et c'est là qu'il y a le plus de difficultés sur l'avancement des carrières.
Beaucoup de difficultés à changer de catégorie, à évoluer. Et ça se présente notamment par une carence importante au niveau des concours. On stagne énormément au niveau de nos carrières et c'est une des principales difficultés en fait. C'est un métier difficile parce que le Louvre est un grand musée. Donc on n'a plus affaire juste à des amateurs d'art, on a affaire à des grosses masses de touristes. Et donc le métier change. Déjà, il y a la barrière de la langue, il y a énormément de touristes, on a un public chinois très très important. Malheureusement, on ne nous accorde pas de formation langue en chinois. Et comme c'est un public qui ne parle pas forcément anglais et qui ne sait pas toujours où il se trouve pour des raisons culturelles et puis parce que les tour opérateurs ne font pas toujours leur métier en expliquant exactement ce que c'est qu'une visite dans un musée. Donc effectivement, on se retrouve face à des comportements inadéquats et auxquels il est très difficile de faire face parce qu'il y a la barrière de la langue.
Comme de nombreux fonctionnaires, Claire se sent stigmatisée par l'opinion publique. Alors elle précise qu'au bout de 9 ans d'ancienneté, elle gagne 1500 euros net par mois.
Quand j'entends dire que les fonctionnaires touchent 2000 euros en moyenne par mois, c'est quelque chose qui nous révolte, nous en tout cas au niveau de la catégorie C. Et on nous traite aussi de nantis, alors que voilà, les 2000 euros, c'est une moyenne sur l'ensemble de cette catégorie. Et c'est assez injuste d'entendre ce genre de choses, parce qu'avec 1500 euros, c'est quand même un petit peu difficile de vivre, notamment en région parisienne.
Et 1500 euros avec des contraintes le week-end, les jours fériés?
Ben, nous travaillons en tout cas dans la surveillance un week-end sur deux. Et les jours fériés, c'est sur volontariat, mais vous comprenez bien que pour pallier les carences financières, on est obligé de le faire pour essayer d'améliorer le quotidien, quoi.
Autre inquiétude, l'externalisation rampante de plusieurs services.
Le problème, c'est que ces choses-là ne sont pas dites très clairement, si vous voulez. Par exemple, moi, quand je suis arrivée au Louvre il y a 9 ans, le vestiaire faisait partie de l'accueil et de la surveillance. Et étant donné l'exigence gouvernementale qui demande tous les ans à tous les établissements des services publics de supprimer des postes, on a vu petit à petit les choses s'installer. Et par exemple, pour moi, les vestiaires ont été externalisés très clairement. Et puis on est mis devant le fait accompli, quoi.
Dans la réforme voulue par le président Macron, un plan de 120 000 suppressions de postes a été annoncé. Un chiffre effrayant pour Christophe Rameau, économiste à Paris 1 et membre fondateur des économistes atterrés, qui lui, au contraire, affirme qu'il faut embaucher des fonctionnaires.
Moi, je pense qu'il faudrait un vrai programme aujourd'hui d'embauche de l'ordre au moins de 50 000 fonctionnaires, de façon donc exactement l'inverse, si vous voulez. Je prends le contre-pied du programme d'Emmanuel Macron et le privé ne s'en porterait pas plus mal. C'est ça qui est important à comprendre, hein. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire, qu'est-ce qu'il fait avec son salaire? Ben, c'est un débouché, en fait, hein, pour les entreprises. Si vous voulez, on peut prendre le problème dans un sens inverse. Il y a un pays qui a supprimé beaucoup de postes de fonctionnaires, c'est la Grèce. Ils ont supprimé de l'ordre de près d'un cinquième de leurs postes d'emploi public. Dans le même temps, ils ont baissé les salaires, ils ont baissé les retraites, résultat des courses. La dépense publique en volume, elle a baissé de 20 points. Mais c'était une catastrophe. Le PIB a baissé de 27 points. Vous avez baissé la dépense publique, mais ça a entraîné une chute du PIB. C'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur, que même maintenant le FMI, l'OCDE, les institutions plutôt historiquement libérales reconnaissent. Donc la dépense publique elle-même, finalement, a peu baissé. On voit bien que ça n'a pas de sens.
La dernière manifestation de la fonction publique, qui remonte à mars dernier, avait réuni environ 323 000 personnes en France. Les syndicats en espèrent davantage demain, mardi 22 mai.
Aujourd'hui, on n'a plus l'impression de lutter pour avoir des choses nouvelles. Nous avons l'impression de lutter pour ne plus perdre.
Soignants, enseignants, policiers, le malaise de la fonction publique, un grand reportage de Patricia Lecomte, à la réalisation Eva Moschinski.